J'avais choisi un thème un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, une conversation sur l'erreur de Montesquieu, donc sur la question du rôle central de la vertu comme concept politique aux États-Unis et donc dans l'architecture institutionnelle des États-Unis. Pourquoi cette question ? En fait, cette question de la vertu et des limites du système américain, du système républicain américain, c'est une question que je me pose, qui me hante un petit peu, qui fait l'objet de certains de mes cauchemars, si vous voulez, et je vais y venir dans un instant, lorsque les États-Unis ont créé leur république, donc en 1787, entre 87 et 88, c'est la période du débat, le débat constituant. Évidemment, ils se sont inspirés de celui qui était le Newton du monde moral, hein, comme on l'a appelé, Newton du monde moral, Newton du monde politique, c'est-à-dire Montesquieu, qui publie l'Esprit des lois en 1748, Esprit des lois qui rencontre un succès phénoménal par la suite, très 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 vite, et qui est traduit immédiatement en anglais par Nugent, en Grande-Bretagne. Et l'Esprit des lois, par exemple, le premier ouvrage qui arrive à la bibliothèque de Charleston, dans la bibliothèque publique de la ville, on a des traces de l'Esprit des lois. Ce qui est assez logique, parce que comme il est traduit immédiatement, en fait, le livre peut s'adresser à un public plus large que les élites habituelles qui lisent le français. Voilà. Et pour des raisons qui sont maintenant assez bien connues, l'ouvrage de référence des pères fondateurs, c'est l'Esprit des lois. On a longtemps pensé que c'était le second traité du gouvernement civil de Locke. Et c'est vrai que quand on pense aux États-Unis, on associe assez rapidement les États-Unis à l'héritage lockéen, du droit naturel. Et il y a une jolie citation d'un père fondateur, Benjamin Rush, qui dit « Oui, Locke, c'était formidable pour la Révolution, mais maintenant, on a besoin d'un expert des formes du gouvernement, et ça, c'est Montesquieu. » Donc là aussi, dans mon travail et à la suite de ces inspecteurs, je m'interroge sur la notion des usages qui sont faits. Donc évidemment, les hommes politiques ils ne font pas un usage professoral, universitaire des œuvres politiques. Hein. Ils lisent Montesquieu avec une volonté, un but, une intention derrière politique. Et ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, c'est que ce n'est pas un problème. C'est qu'en fait ça crée ensuite des choses passionnantes et que lorsque ces personnes, ces élites politiques prennent au sérieux la philosophie, l'histoire, etc., ce qui est le cas au XVIIIe siècle, eh bien on arrive à des trouvailles politiques comme le système américain, le système fédératif américain, la séparation des pouvoirs aux États-Unis, etc., etc. Donc vraiment c'était une thèse sur l'usage politique des concepts de Montesquieu au 18e, et évidemment, comme vous le savez, l'étude de cet usage est d'autant plus intéressante que encore aujourd'hui, le système américain est structuré par le régime fondé à la fin du 18e siècle, avec des changements notables, notamment sur la question de l'esclavage, bien entendu, mais la séparation des pouvoirs, telle qu'elle est formulée par Montesquieu, telle qu'elle est reprise par les Américains, eh bien, c'est la même, peu ou prou, depuis 250 ans. Évidemment, par après, la tripartition des pouvoirs a essaimé partout en Europe, et plus ou moins partout. Et donc, les systèmes politiques aujourd'hui dits démocratiques reposent tous sur la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que, et c'est assez amusant parce qu'à l'époque, on pensait que la science politique était une science comme les autres. On a beaucoup d'instituts d'études politiques, de Sciences Po, voilà, mais à l'époque, en tout cas, c'était véritablement de la science, et c'est pour ça que quand on compare Montesquieu à Newton, ce n'est pas qu'une figure de style. On pense vraiment que, comme dans la physique, on fait des avancées aussi en politique. Et donc, la science politique des Grecs est moins avancée que la science politique des modernes, et que la somme des progrès de la science politique, c'est l'esprit des lois. Donc, voilà le point de départ, l'influence majeure de Montesquieu, parce que son œuvre se diffuse extrêmement bien, notamment aux États-Unis, et que, comme vous le savez, les États-Unis avant d'être des États-Unis, ce sont des colonies de l'Empire britannique, et que pour accéder aux fonctions administratives et juridiques de l'époque, il faut connaître le droit anglais, Donc la common law, bien sûr, et également l'histoire constitutionnelle anglaise, que la référence pour comprendre l'histoire, alors c'est un peu paradoxal, hein, mais la référence pour comprendre l'histoire constitutionnelle anglaise, c'est Montesquieu, en français, mais qui est resté 2 ans en Angleterre tout de même, et qui a écrit, donc dans l'Esprit des lois, au livre 11, chapitre 6 de l'Esprit des lois, de la Constitution d'Angleterre, dans lequel, pour la première fois, nous avons une description de l'agencement des trois pouvoirs, telle qu'encore aujourd'hui elle existe. Et bon, je reviendrai avec vous sur peut-être ce passage-là, notamment s'il y a des professeurs de philosophie dans la salle ou sur Zoom, parce que c'est un point sur lequel j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs collègues du secondaire quand Montesquieu est étudié. Parfois, c'est vrai que dans certains manuels, je pense que c'est pas très bien fait, ou en tout cas on passe trop vite, parce que il est vrai que le terme de séparation des pouvoirs qu'on entend très souvent, même à la télévision, aux États-Unis, etc., etc., en ce moment, tous les jours, ça n'existe pas chez Montesquieu. Vous ne trouverez nulle part. Donc, vous trouverez distribution des pouvoirs et vous trouverez des choses qui sont antithétiques à l'idée de séparation des pouvoirs. Vous trouverez Montesquieu qui vous explique que les pouvoirs doivent être mêlés et fondus. Donc, alors, qu'est-ce que ça signifie ? Donc voilà, ça, je voulais vraiment insister avec vous là, sur ce point-là. Les historiens, je pense que voilà, ils comprendront que, évidemment, ça les touche, moi j'espère. Et puis les anglicistes également. Dans la thèse, j'ai beaucoup travaillé sur la traduction, sur les traductions qui ont été faites, parce que Montesquieu est traduit. Mais comme ils lisent souvent le français, parfois ils font des traductions sauvages ou des traductions propres. Et ce qui est assez passionnant, c'est que, évidemment, en changeant certains termes, on peut infléchir le texte dans une direction ou une autre, et parfois, eh bien, ça donne ça donne une certaine postérité à Montesquieu. Une postérité inattendue, que lui-même ne pouvait entrevoir, évidemment, parce qu'il ne savait pas que son œuvre serait diffusée en Grande-Bretagne. Même si, de manière tout à fait frappante, on trouve dans l'Esprit des lois une sorte de prédiction un peu de Montesquieu Nostradamus. Il écrit, donc ça c'est au livre 19, chapitre 27, Montesquieu dit que, donc il parle des colonies, et les États américains de l'époque sont des colonies, et il dit, si je devais trouver une colonie qui exporte son modèle de gouvernement, ce serait l'Angleterre. Il dit, si l'Angleterre fonde une colonie, alors elle prendra son système de gouvernement. Voilà, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé, à quelques détails près. Voilà, donc ça c'est pour vous donner le contexte. Donc on comprend donc que Montesquieu est extrêmement lu à l'époque, extrêmement commenté, parce qu'il fait partie de la formation académique des élites américaines, et qu'au moment, donc là aussi, peut-être que c'est des choses que vous connaissez déjà, donc n'hésitez pas si ça vous semble trop, évidemment trop prosaïque. Les États-Unis, à partir de 1776, entrent en révolution, et la forme de gouvernement qui est choisie est une confédération, qui n'est pas la fédération actuelle. Il y a ce qu'on appelle les articles de la confédération. Et donc, si vous voulez, ces articles instituent un gouvernement qui est une confédération, qui est une association, donc il y a beaucoup de termes, hein, ligue également, une ligue, une association libre d'États qui, et c'est le point essentiel, demeure souverain. Donc ces États ne cèdent pas leur souveraineté. Ils s'associent, ils acceptent de déléguer notamment l'exercice de l'armée, hein, puisqu'il faut une armée pour faire la révolution, mais évidemment ils restent souverains. Et lorsque la guerre s'achève, notamment après la signature du traité de Paris en 1983, les États restent jaloux de leur souveraineté et de leurs prérogatives. On a un texte de George Washington qui parle des États qui ont du mal à céder leurs « darling sovereignties », voilà, donc leur « chère souveraineté ». Néanmoins, ce système ne fonctionne plus à partir de la rébellion de Saïs, donc dans Massachusetts. Donc je passe là aussi, mais donc, si vous voulez, la leçon de cette histoire-là, de cette rébellion dans un État américain, c'est que l'État du Massachusetts a appelé à l'aide ses collègues, disons ses 12 autres associés, et que tous ont refusé de lui envoyer du soutien. Voilà. Bon. C'est comme s'il y avait une révolte dans un pays d'Europe qui menace la structure du gouvernement, et puis que l'Europe dise « bon, ça vous concerne ». ou encore qu'un pays soit attaqué par une puissance étrangère et que les associés disent bon, ça vous concerne. Voilà, les pères fondateurs se disaient que l'égoïsme des nations et des États américains allait à terme désagréger cette confédération et menacer directement la survie du système parce que, comme vous le savez sans doute aussi, les États-Unis de l'époque sont menacés par trois empires, l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire espagnol, qui sont présents physiquement sur le territoire. La Louisiane est française, le Mexique, la Floride sont sous domination espagnole, et évidemment le Canada est sous domination anglaise. Et la puissance économique de chacun de ces trois empires est infiniment supérieure à celle des États-Unis, qui est une confédération républicaine agraire. Voilà. Donc, face à cette menace, les États-Unis vont décider, dans un premier temps, de réformer la Confédération pour lui donner plus de force, plus d'unité, plus de cohésion. Et donc, les délégués des différents États vont se réunir à Philadelphie, où a été Anne récemment. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si Anne, vous avez vu, j'imagine que vous avez visité Independence Hall. Donc voilà, c'est effectivement là où a été signée à la fois l'indépendance des États-Unis et la Constitution fédérale, voilà, dans deux salles qui se font face. Et je ne sais pas si d'autres collègues ont été à Philadelphie, si vous y allez, vous serez frappé tout de suite par une chose, c'est que c'est tout petit. Et qu'on imagine voilà, la puissance américaine telle qu'elle est aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, c'est minuscule. Et vous avez, voilà, puisque vous avez 13 États, chacun envoie 2 ou 3 délégués, donc ça fait une petite assemblée malgré tout, ils n'ont pas besoin de beaucoup de place pour se réunir. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand ils instituent notamment le Sénat, donc le premier Sénat des États-Unis, bah c'est pour savoir où ils vont se réunir, c'est très simple, ils les mettent dans le grenier. Parce que, bon, là aussi, vous faites le calcul, 2 sénateurs par État, vous avez 26 sénateurs. Finalement, on a trouvé une salle gros où on a pu les mettre. Il y aura un peu plus de représentants, donc on trouvera une salle un peu plus grande. Et puis ensuite, on déménagera, bien entendu, à terme à Washington. Donc voilà le contexte. Avant qu'on les appelle les pères fondateurs, les délégués à la Convention de Philadelphie sont appelés à réformer les articles de la Confédération. Mais ils vont outrepasser leur mandat. En fait, ils vont écrire une nouvelle constitution, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Jamais les États ne leur ont confié cette tâche. Mais, et donc on a, donc après ils auront parfois certaines difficultés à justifier, leur argumentation sera de dire l'État de la Confédération est tellement dégradé qu'en fait ça ne suffit pas de réformer cette Confédération, il faut créer une nouvelle structure, un nouvel État, une fédération. Et pour ce faire, donc ils vont, ce sera vraiment un moment d'échange intellectuel très intense, parce qu'encore une fois, la ville est toute petite. Donc la journée, donc ça dure plusieurs mois. La journée, ils sont ensemble, ils débattent, on a les débats, on a tous les débats de la Convention qui sont archivés, donc on sait ce qu'ils se sont dit. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on peut deviner, c'est que, évidemment, ce sont des êtres humains, donc ils parlent la journée, puis le soir, ils vont au pub. Voilà, et donc ils se retrouvent en groupe comme ça, les clans, les gens qui sont d'accord, pas d'accord, ceux qui veulent la souveraineté plutôt au niveau des États, plutôt au niveau fédéral, la question de l'esclavage, les États du Sud se retrouvent entre eux pour défendre leur position esclavagiste, le Nord n'est pas d'accord, etc. Donc on a vraiment une sociabilité ici intellectuelle qui s'établit à Philadelphie. Donc on a une sorte de moment qui a été mythifié ensuite, où les pères fondateurs vraiment sont les législateurs de la nation. Et donc se réunissent à Philadelphie. Et bien souvent, l'arbitre des débats est Montesquieu. Donc Montesquieu est cité très fréquemment dans les débats, il est parfois, alors voilà, certains le connaissent par cœur, et si vous voulez, la manière dont il le cite, il y a plusieurs façons de le citer, mais assez souvent, c'est d'un ton lapidaire, parce qu'on considère que Montesquieu, encore une fois, comme c'est Newton du monde moral, après tout, on peut se contenter de le citer et c'est fini. Hein. Si Montesquieu a dit que les républiques et les démocraties c'était que pour les petits États, eh bien les États-Unis c'est trop grand, point. Donc pas de démocratie sur un grand État. Il faut soit une monarchie, soit un despotisme. Point. Donc ça, c'est un usage qui va apparaître, mais très vite, il y a un autre usage qui va le concurrencer, qui est beaucoup plus intéressant pour la théorie politique, qui est un usage informé et réflexif, mais qui se fait dans le combat. Et donc voilà, je vais en venir assez vite à cela, parce que le point d'achoppement, c'est vraiment, il y a plusieurs questions qui obsèdent les pères fondateurs de l'époque, et l'une des premières questions, c'est sur la taille de l'État. Évidemment, la référence, encore une fois, c'est Montesquieu, c'est le livre 8, chapitre 16 de l'Esprit des lois. Donc je vais vous faire une lecture de ce chapitre-là. Bon, très rapidement. Il est de la nature d'une république qu'elle n'est qu'un petit territoire. Sans cela, il ne peut guère subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes et par conséquent peu de modération dans les esprits. Il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d'un citoyen. Les intérêts se particularisent. Un homme sent d'abord qu'il peut être heureux, grand, glorieux sans sa patrie, et bientôt qu'il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie. Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations. Il est subordonné à des exceptions. Il dépend des accidents. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen, les abus y sont moins étendus et par conséquent moins protégés. Donc, Montesquieu est un auteur relativement facile à comprendre. Vous voyez que c'est un beau texte du 18e, donc voilà, beaucoup d'élégance rhétorique. En même temps, c'est un auteur très subtil parce que vous l'aurez noté, Montesquieu, le premier adjectif qu'il emploie pour parler du bien commun, ce qu'il appelle en d'autres termes la vertu, hein, la capacité de penser au bien commun et non pas au sien propre, à son intérêt personnel, Montesquieu dit que le bien public est mieux senti. Alors ça, c'est vraiment capital parce que Montesquieu dira en un autre endroit de l'Esprit des lois que la vertu, c'est un sentiment. Ce n'est pas une suite de connaissances. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une république, les premiers à flancher, ce ne sont pas les citoyens, ce sont les élites qui, elles, très vite, ont un intérêt qui vont les particulariser et les éloigner de la masse du peuple. Voilà, pour Montesquieu, et ça, cette qualification de la vertu, de la république comme un régime où les citoyens sont attachés très profondément et émotionnellement, passionnellement, dirait Montesquieu, à la patrie, à l'amour des lois, au bien commun, eh bien, ce sera noté par les opposants à la Constitution fédérale. Parce que c'est quelque chose qui peut-être n'est. Alors voilà, je ne sais pas quel est tout à fait votre degré de connaissance de la période, mais peut-être que vous avez vu le show aussi à Broadway, Hamilton. Voilà, il y a eu beaucoup de. Mes étudiants à la Sorbonne l'avaient vu, donc ils connaissaient bien Hamilton. Et aux États-Unis, c'est très très connu aussi. Et donc, effectivement, on connaît plutôt les pères fondateurs, voilà, les gagnants, disons, de cette histoire, Hamilton, Madison, Jefferson, etc. Mais évidemment, l'histoire ne retient que les vainqueurs. Et en l'occurrence, il y a un perdant magnifique, que voilà, ma thèse se consacre en grande partie à lui, qui s'appelle Brutus. Donc voilà, un jour, je disais aux étudiants, un jour, il y aura un musical sur Brutus, peut-être, du moins je l'espère. Et Brutus, donc on ne connaît pas son identité, en plus il y a un côté un peu fascinant, on ne sait pas qui c'est. On sait simplement qu'il est un citoyen de l'État de New York, que c'est sans doute un avocat, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, c'est quelqu'un qui a une connaissance historique, une connaissance politique extrêmement vaste, et c'est quelqu'un qui s'oppose à une nouvelle constitution qui a été adoptée à Philadelphie. Et pour que la constitution soit adoptée, il faut que 9 États sur 13 la ratifient. Et bien sûr, l'un des États les plus importants, c'est l'État de New York, qui est un État extrêmement peuplé à l'époque. Ça devait être, si je ne me trompe pas, le deuxième, mais Agnès me corrigera, le deuxième État le plus peuplé à l'époque. Donc, on ne conçoit pas que New York refuse d'adopter, de ratifier, pardon, la Constitution. Si c'est le cas, alors c'est tout le projet de fondation des États-Unis d'Amérique qui sera mis en danger. Et c'est exactement ce qui va se passer. Dans la presse, au mois de septembre 1787, paraît une lettre d'un certain Brutus. Et alors, dans cette lettre, Brutus explique, donc, le texte que je viens de vous lire, Brutus cite ce texte. C'est l'auteur qui le cite, et Brutus dit, au fond, ce que nous proposent Hamilton, Madison, les partisans de ce nouveau régime, au fond, ils vous font croire que c'est une république, mais en fait, sous cette république se cache, en réalité, soit une monarchie, une tyrannie, une aristocratie, un despotisme. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Montesquieu, et là, donc, Brutus cite l'intégralité du passage dans la traduction du Jean, et il dit, ben, vous voyez bien qu'une république, ça demande la vertu. C'est le sujet de la conférence, hein, la vertu. Ça demande la vertu. Et dans un grand État, vous n'aurez jamais la vertu. Parce que les citoyens ne pourront jamais la sentir, donc on a des difficultés d'ordre motivationnel et épistémique. D'abord, motivationnel, c'est-à-dire les citoyens ne seront pas poussés ou n'auront pas la volonté, le désir de poursuivre la vertu, de poursuivre l'amour du bien commun. Ils ne voudront pas aller à la guerre, par exemple. Parce qu'on leur dira, mais enfin, il faut défendre la patrie, ils diront, oui, mais... bon, moi, mon intérêt à moi, c'est pas exactement de mourir pour la patrie. Bon, dans les républiques de la Grèce, c'était un honneur d'aller mourir pour la patrie. À Rome, c'est pareil. Bon, donc, ce ne sera peut-être pas le cas si on étend la taille de la République, en fait. Pourquoi ? Parce que la patrie, c'est un concept abstrait. Quand vous vivez loin les uns des autres, c'est vrai que la patrie, c'est un concept abstrait. Donc, d'un point de vue motivationnel, si on vous dit qu'il faut aller vous sacrifier pour vos concitoyens, vos frères, cet argument risque de ne pas fonctionner si vous n'avez pas une éducation républicaine extrêmement stricte qui va réduire et en fait transformer toutes les passions particulières en passions générales. Montesquieu prend l'image du couvent. Il dit, les moines, ils aiment beaucoup leur règle qui est très dure, mais justement, ils n'ont que ça. Et ils l'aiment d'autant plus qu'elle leur permet d'exclure le reste des biens terrestres. Donc ça, c'est le premier argument motivationnel. Très peu probable que les citoyens, d'ailleurs Montesquieu, ça n'arrivera pas, que d'eux-mêmes puissent avoir cet amour de la patrie. Bon. Deuxième argument, il est d'ordre épistémique cette fois-ci. C'est-à-dire que, quand bien même il y aurait une volonté d'agir pour le bien commun, mais qu'est-ce que c'est le bien commun dans un État avec plusieurs millions d'habitants ? Qu'est-ce que c'est le bien commun alors que les intérêts se particularisent, que les professions commencent à instaurer des classes sociales et des divisions dans la société ? Évidemment, là, d'un point de vue épistémique, même avec toute la bonne volonté du monde, vous aurez de plus en plus de mal à savoir ce qu'est le bien commun, et on peut même supposer que ce soit à nouveau un terme abstrait, qui n'est pas de réalité. Voilà. Et donc, pour ces arguments, Brutus dit, mais enfin, il est évident que le système proposé, d'une sorte de réunion des 13 États, en une seule grande république, est une façon de concentrer le pouvoir dans les mains de quelques-uns qui seront à Philadelphie, qui auront des intérêts particuliers bien éloignés de la vertu et de l'amour des lois, et donc, à terme, les citoyens américains seront sous la coupe d'une petite élite aristocratique qui vit à Washington. Bon, pardon, là, ça devient un discours pratiquement trumpiste. Mais c'est très important de comprendre que ce discours-là n'est pas du tout neuf et qu'il était même majoritaire dès le XVIIIe siècle. Ce qui est premier, c'est la critique de la Constitution, c'est pas son adoption. Et donc, effectivement, on a des arguments très intéressants chez Brutus. Malheureusement, d'une certaine façon, il n'y a jamais de travail suffisant d'exploitation des thèses antifédérales, ce qu'on appelle les antifédéralismes, les opposants à la Constitution fédérale. Il y a eu un travail par un collègue dans les années 60, hein, c'était à l'Université de Chicago, mais il a eu un accident de voiture. Et il n'a jamais pu poursuivre son œuvre de collection des différents pamphlets antifédéralistes. Donc voilà, il reste du travail. Donc si vous voulez, donc ça paraît début, c'est donc cette lettre très critique et très puissante contre la Constitution américaine, elle paraît au début de septembre 87. Et une semaine après, vous avez la réponse dans ce qui s'appellera ensuite le fédéraliste, hein, les Federalist Papers, c'est-à-dire que le Madison et Hamilton se mettent d'accord, se mettent ensemble, et ils répliquent à Brutus. Donc, on a une lettre de Madison qui écrit à un de ses amis qui dit « Je viens de lire dans la presse new-yorkaise un texte extrêmement bien écrit, avec des arguments extrêmement bien exprimés, qui frappe à la fondation. » Donc là, effectivement, il est inquiet. Il y a une vraie inquiétude du camp des partisans de la Constitution, parce que les arguments, évidemment, notamment ceux de Montesquieu, font mouche auprès du public américain. Et pour la petite histoire, ils font tellement mouche que Brutus va gagner, en fait. Ceux qui seront élus à la convention de l'État de New York seront, au départ, contre la Constitution. Donc la campagne médiatique la plus puissante, c'est celle de Brutus. Malgré, donc, parce que là aussi, on étudie le fédéralisme dans tous les cours de droit aux États-Unis. La Cour suprême, là, à sa gauche. Je ne sais pas si Trump, là, à sa droite, mais en tout cas, les juristes américains sont tous formés aux fédéralistes. Et le fédéraliste est cité dans les décisions, les rendus de la Cour suprême. Mais beaucoup ignorent qu'en fait, c'est un texte de, comme dirait l'autre, de loser. Enfin, ils ont perdu. C'est pas le texte qui a remporté l'adhésion des citoyens de New York. Celui qui a remporté l'adhésion, c'est celui de Brutus, parce que les arguments de Brutus étaient vraiment pré-populistes, disons avant l'heure. En tout cas, c'est lui qui a gagné cette bataille-là. Et j'en viens donc au deuxième point. Donc, la vertu d'une part, c'est l'argument fort de Brutus, qui pose problème à Madison et Hamilton, et je vais seulement revenir sur la... Donc, chacun apporte une réponse différente, et ce qui est frappant, c'est qu'ils le font à chaque fois à partir de Montesquieu. Donc, ils auraient pu dire... Voilà, pourquoi est-ce que vous citez ce français aristocrate voilà, c'est très loin de nous tout ça. Ce que nous voulons, vous savez, il y a toujours ce discours de l'exceptionnalisme américain, hein, voilà. Mais ce sont tout bêtement, assez prosaïquement, ce sont des hommes des Lumières, et donc ils connaissent Montesquieu, et ils choisissent de répondre en citant Montesquieu, mais d'autres passages de Montesquieu. Voilà. Et ce que fait notamment Madison, c'est qu'il va citer Montesquieu et qu'il va expliquer qu'en réalité, ce que sont en train de faire les États-Unis, ce qu'est en train de faire la Constitution, c'est une amélioration. Voilà, autant les antifédéralistes disent, voilà, Montesquieu, c'est terminé, c'est ça la théorie politique, c'est la vérité d'une certaine façon. Les fédéralistes, évidemment, ils ne peuvent pas dire ça parce que sinon ils sont un peu coincés, donc ils vont dire, en fait, on a amélioré Montesquieu. Voilà, donc ils disent, alors chez Montesquieu, on a la séparation des pouvoirs. Voilà, je pense que vous l'avez tous entendu. Et alors, ce qui est fascinant, première chose qui est fascinante, c'est que dans le fédéralisme, donc dans les différents articles du fédéralisme, si vous prenez le fédéraliste le numéro 49, Madison, donc entre le 47 et le 49, il cite in extenso le chapitre 6 du livrement de l'esprit des lois. Et il fait un commentaire, comme on fait en philo. Donc il fait un commentaire de philo. Il dit, donc c'est comme s'il corrigeait la copie d'un élève qui n'a pas compris Montesquieu, et c'est assez extraordinaire, hein. Il dit, mes adversaires citent Montesquieu à l'envi, mais sans comprendre. Ils disent que dans la constitution que nous proposons, les pouvoirs ne sont pas séparés, car l'exécutif possède une partie du pouvoir législatif via les executive orders, une part du pouvoir judiciaire via le droit de grâce, et le pouvoir législatif possède une part du pouvoir judiciaire car il peut juger le président, etc. etc. Donc effectivement, si vous êtes un étudiant de licence, de philosophie ou de terminale, voilà, vous vous dites, bah oui, ça ne marche pas parce que les pouvoirs ne sont pas séparés, au contraire, ils sont mélangés. Et Madison dit, mais c'est exactement ce que souhaite Montesquieu. Si vous lisez le modèle qu'il prend dans le régime anglais, Montesquieu va vous dire que les pouvoirs doivent être distribués et qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais pour que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut le distribuer de façon à ce que l'un puisse embêter l'autre. Si chacun est dans sa ligne, si chacun est dans finalement voilà, ce qu'il doit faire uniquement, si chaque organe, c'est-à-dire chaque département du pouvoir, le Sénat, la Chambre, le Président, etc., fait uniquement ce qu'il doit faire, ce qui va sans doute se passer, c'est que le pouvoir le plus puissant prendra l'avantage. Et que le pouvoir le plus puissant, en l'occurrence, c'est le législatif. Il y a beaucoup de... Là c'est un peu... Il y a beaucoup de débats entre spécialistes de Montesquieu, est-ce qu'il y a une hiérarchie des pouvoirs, etc. Moi, je pense que Montesquieu le dit dans ce texte fameux, il dit le pouvoir le plus extraordinaire, c'est le pouvoir de faire la loi. C'est pratiquement un pouvoir de magicien, on peut faire la loi. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au contraire, chacun doit pouvoir empiéter sur l'autre. C'est pour ça que, dans le système américain, le président peut effectivement passer des executive orders, mais qu'ils peuvent être annulés par le Congrès. Et que le président peut apposer un veto aux lois votées par le Congrès. Si une loi déplaît au président, il peut y apposer son veto. Cependant, évidemment, c'est toujours pareil, c'est un jeu de ping-pong. Si le Congrès veut vraiment que la loi passe, s'il est opposé au président des États-Unis, alors il peut voter aux deux tiers. Et si le vote est aux deux tiers, alors le président n'a pas le choix et doit signer la loi. Donc vous voyez, chaque pouvoir empiète sur l'autre parce que chaque pouvoir a les moyens de le faire et bien souvent un intérêt à le faire. Et ça, c'est la leçon de Montesquieu que vous connaissez tous, hein, qui vient juste avant ce fameux chapitre, hein, au chapitre, enfin, oui, au chapitre 4 du livre 11, hein, « Tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser ». Et Montesquieu, au lieu d'y voir, on pourrait lire ça et être très triste et se dire « c'est terrible pour nos sociétés politiques », Montesquieu, donc son coup de génie, c'est de dire « c'est formidable ». Grâce à ça, on va canaliser le pouvoir, on va canaliser la quête de pouvoir de chaque homme et de chaque corps, et on va s'en servir. Montesquieu, là-dessus, est un peu mécaniste, hein, il dit, voilà, c'est le despotisme, par exemple, si vous prenez un système despotique, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de division des pouvoirs, c'est très simple, la même personne a tout le pouvoir ou le même corps a tous les pouvoirs. Donc finalement, il dit, c'est une machine très simple, voilà, et elle casse très facilement. La machine anglaise, le système anglais ou le système américain, c'est une machine très compliquée. Vous la voyez de loin, vous dites, effectivement, elle dit, il y a des ressorts, des poulies, ça va en avant, en arrière, on dit, mais comment est-ce que ça peut fonctionner, cette machine? Justement, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne parce qu'elle est complexe et qu'elle arrive en fait à canaliser des intérêts qui sont divergents et qui vont en fait, au lieu d'aller dans le même sens, comme pour le bien public dans la démocratie, ils vont dans des sens opposés, mais en les unifiant, en réalité, ils forment la sécurité et la sûreté du peuple. La sûreté, l'opinion que l'on a de sa sûreté, c'est la définition de la liberté pour Montesquieu. Si vous avez un système très simple, c'est très facile pour le despote de s'en prendre à vous, qui que vous soyez. Si vous êtes dans un système à l'anglaise au 18e, c'est beaucoup plus difficile, parce que même si le roi se veut s'en prendre à vous, eh bien la séparation des pouvoirs fait qu'il ne peut pas décider d'une loi qui irait contre vous. Et il n'a pas non plus la main sur le judiciaire. Donc vous voyez bien que là, la distance entre la personne qui vous en veut et qui a du pouvoir et vous est beaucoup plus grande que dans le despotisme où, à sa main, il a tous les instruments de la coercition. Donc plus le pouvoir est divisé, plus vous êtes libre. C'est la leçon de Montesquieu. Et il y a un texte très drôle, enfin bon, il n'y a que moi qui le trouve drôle, mais comme souvent, c'est Montesquieu, lorsqu'il est en Angleterre, écrit voilà, des notes, et donc dans les notes d'Angleterre, il y a Montesquieu, à un moment donné, il reste 2 ans en Angleterre, enfin 1 an et demi, presque 2 ans, et il va au Parlement, il regarde comment ça marche. En France aussi, il y a des parlements, c'est pas du tout la même chose. Les parlements en France, voilà, ne revendiquent pas la souveraineté, la représentation, etc. etc. En Grande-Bretagne, si. Et donc Montesquieu, à un moment donné, prend l'exemple d'une loi et dit, au fond, qu'est-ce que c'est une bonne loi dans ce système? Qu'est-ce qu'une bonne loi dans un système de gouvernement qui divise le pouvoir? On comprend que ce n'est pas la loi qui est décidée par une personne et imposée ensuite à tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. Ça, effectivement, comme dit Montesquieu, la loi n'est pas un pur acte de puissance. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, Montesquieu prend l'exemple d'une loi anglaise qui passe à l'époque, c'est une loi contre la corruption. Et donc Montesquieu dit, chaque année, le Parlement veut faire voter cette loi, donc il l'a fait voter. Donc la Chambre des communes vote la loi. Et à chaque année, pas le Sénat, pardon, la Chambre des lords la refuse. Parce qu'évidemment, ça les menace aussi, cette loi sur la corruption menace leur prébende électorale. Bon. Et Montesquieu dit, il y a une année, du coup, ce qui se passe à chaque fois, c'est que le Parlement, la Chambre des communes, fait exprès, comme ça, elle fait détester la Chambre haute, parce qu'elle dit aux citoyens, regardez, on a essayé de passer une loi contre la corruption, mais les lords, ils n'ont pas voulu, c'est terrifiant, il faut nous donner plus de pouvoir. Et donc, au bout d'un moment, les lords, pas plus bêtes que les autres, disent, bon, bah, ok, donc ils votent la loi. Donc il la vote un peu, ça passe à très peu, et le roi est obligé de la promulguer, parce que la dernière personne qui ait fait un réel veto à la loi, comme vous le savez, a eu la tête tranchée, Jacques II, donc bon, de triste mémoire, le roi a quelques difficultés et précautions lorsqu'il fait un veto. Le dernier à Lyon en 1713, c'est un refus du Royal Assent par Queen Anne, mais bon, c'est complètement anecdotique. Mais par contre, oui, Jacques II, oui, là, c'est pas anecdotique, parce qu'on exécute. Et donc, si vous voulez, Montesquieu dit, eh bien voilà une bonne loi. Et il dit donc une formule hilarante, il dit, voici une très bonne loi qui a passé contre la volonté de la Chambre des communes, contre la volonté de la Chambre des lords, et contre la volonté du roi. Là, vous avez une sorte de. C'est une vraie leçon. Montesquieu, là-dessus, c'est le seul. Enfin, tous les philosophes ont des définitions de la loi, ce qui est bien évident. Hobbes, voilà, la loi, c'est un commandement du souverain. Chez Rousseau, c'est l'acte que produit la communauté politique souveraine, etc., le souverain. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée d'une volonté qui parvient à se faire, disons, à s'établir dans la société. Évidemment, chez Montesquieu, c'est pas comme ça. Montesquieu, une bonne loi, c'est une loi sur laquelle personne n'est content. Mais ce qui est bien logique, puisque si quelqu'un était content, c'est-à-dire que son intérêt à lui seul aurait été validé, aurait été transmis ensuite. Et donc Montesquieu dit, ben non, là, c'est une bonne loi parce que personne n'était d'accord. Bien, donc ça, c'est vraiment ce que fait Madison entre le 47 et le 49. Il explique Montesquieu, il dit, bah, vous voyez bien, dans le système anglais, les pouvoirs sont distribués, et bien dans notre système, les pouvoirs sont distribués, mais on a fait encore mieux que Montesquieu. On les a distribués au niveau horizontal, c'est-à-dire dans le gouvernement fédéral, vous avez les trois pouvoirs de fait. À l'époque, la Cour suprême n'a pratiquement aucun pouvoir. Hein. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. C'est juste un petit point pour vous, peut-être enfin, pour tous les collègues, hein, et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi beaucoup en ce moment. Quand on parle de séparation des pouvoirs, de distribution des pouvoirs, ça n'a aucun sens d'en parler de manière générale. Chaque type de régime, Montesquieu dirait, chaque société, chaque État a une distribution des pouvoirs qui lui est propre. Et cette distribution de pouvoir, elle évolue. Parce que les acteurs politiques, ils gagnent, ils perdent du pouvoir. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que s'instaure toujours la distribution des pouvoirs. Montesquieu, donc c'est un livre qu'il écrit sur la considération sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, qu'il écrit lorsqu'il est en Grande-Bretagne, Montesquieu dit, vous voyez comment s'est formée Rome, et donc il explique qu'au départ, effectivement, c'est la monarchie qui s'est associée avec une élite de notables, et après les notables qui voulaient aller contre le roi se sont associés avec une partie du peuple, et donc ça a donné l'institution du tribunat, et finalement, enfin, le pouvoir s'est séparé comme ça. Donc à chaque fois, c'est les acteurs qui essayent de s'en prendre à un autre acteur, qui donne du coup du pouvoir à une autre faction, qui ensuite, elle aussi, va vouloir plus de pouvoir. Donc c'est une sorte d'écosystème comme ça, d'écologie du pouvoir politique. Et la Cour suprême, au départ, n'avait finalement presque aucun pouvoir. Et peu à peu, elle en a acquis. Et maintenant, elle en a énormément. Mais tout ça n'est pas figé. Dans 50 ans, peut-être elle n'en aura presque plus. Et peut-être que le législatif aura tout retrouvé. Voilà, donc ça aussi en fait, et en France, la distribution des pouvoirs n'est pas la même, enfin, et elle était différente il y a 30 ans. Donc ça aussi c'est très intéressant de réintroduire l'histoire en fait dans les concepts de théorie politique, et inversement bien sûr. Donc voilà, Madison fait ça, l'avantage du système américain c'est que la séparation des pouvoirs elle existe au niveau de l'État fédéral, mais elle est répliquée en fait par le niveau fédéral, pardon, oui, donc on peut dire fédératif, c'est-à-dire dans chaque État. Dans chaque État, vous avez également cette division des pouvoirs, vous avez une constitution qui est propre à chaque État, et vous allez avoir une concurrence des pouvoirs au niveau de chaque État vis-à-vis du gouvernement fédéral. Les États seront attachés à leurs prérogatives. Et donc, quand le gouvernement fédéral essaiera d'outrepasser son pouvoir, les États résisteront. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la séparation des pouvoirs. C'est un raffinement de la séparation des pouvoirs. Voilà. Donc, je vais conclure maintenant. Donc, c'était les textes que je voulais aborder. Et donc à chaque fois c'est cité effectivement en anglais. Alors on ne sait pas trop, parfois on aimerait bien savoir quelle édition il cite, parce que dans le cas de Madison il parlait très bien français. Alors on ne sait pas s'il cite, bon ça ressemble beaucoup enfin, disons, à l'édition Nugent, mais ce n'est pas l'édition Nugent que l'on a actuellement. Donc voilà, quand on fait l'histoire de la recherche après, il faut vraiment aller vérifier quelles étaient les sources, les œuvres auxquelles ils se référaient, parce que sinon on fait plein de bêtises, on fait plein d'erreurs, on impose des termes qui en fait n'existaient pas à l'époque, etc., etc. Donc, si vous voulez, en résumé, les États-Unis, les pères fondateurs, pensaient avoir inventé un système de gouvernement unique, et ils avaient sans doute raison, la première véritable république, une république qui ne sera pas une démocratie, hein. Ça c'est Bernard Manin qui est malheureusement décédé beaucoup trop tôt, qu'il a montré magnifiquement dans les principes du gouvernement représentatif. La République, c'est l'inverse de la démocratie, parce que la République, ce sont les représentants. Et comme le montre bien Manin, pardon, l'idée de représentant, elle est propre à l'aristocratie. Comme vous le savez, la démocratie, c'est le tirage au sort. Ils n'ont jamais pensé à cette idée-là, évidemment. C'était vraiment la représentation, voire une représentation élitiste pour les pères fondateurs. Les pères fondateurs américains se disaient, chouette, finalement, le problème qui nous a été légué par Montesquieu et dont se sont servis les antifédéralistes comme Brutus, c'est vous ne pouvez pas créer de république sans vertu. Et les pères fondateurs ont dit, en fait, si. Et d'ailleurs, dans Montesquieu, on a déjà ça, c'est le gouvernement anglais. On va juste raffiner le gouvernement anglais, on n'aura pas droit, par exemple. En réalité, l'absence de vertu elle-même produit la liberté. Donc, on n'a pas besoin de changer les hommes. On n'a pas vraiment besoin d'une éducation au patriotisme, etc. Et d'une certaine façon, c'est le domaine qui, c'est ce modèle-là qui a dominé par la suite, avec tout ce qu'on connaît, même en France, évidemment, sur Benjamin Constant, les modernes, les anciens, les modernes, la division du travail, la politique d'un côté, la sphère privée de l'autre, le libéralisme. Montesquieu est un des fondateurs du libéralisme. Voilà, donc effectivement, sa pensée a beaucoup essaimé. Et on en vient à la situation actuelle, aujourd'hui. Et certains, finalement, reviennent un peu à Brutus et se disent, mais. Dans le système américain actuel, bon, si on prend l'exemple d'hommes politiques actuels aux États-Unis, on peut se dire, bon, bah, vraiment, ils n'ont pas de vertu. Hein. Alors ceux-là, leur intérêt propre, oui, mais c'est tout. Et on se dit, mais du coup, là, ça dysfonctionne quand même. Donc, et en fait, on en vient au cœur d'un vrai problème de théorie politique, parce qu'il y a une ambiguïté, en fait, chez les pères fondateurs. Quand on lit notamment Madison, alors Jefferson, c'est très clair aussi. John Adams, mais même chez Madison, c'est là que c'est le plus intéressant, parce que Madison est torturé en fait. Madison, c'est le père fondateur le plus intéressant, parce que c'est celui qui vit aussi plus longtemps. Donc il meurt en 27, donc c'est le seul qui survit en fait et qui est capable de voir ce qui se passe. Et il faut savoir, peut-être que vous ne savez pas, mais tous les pères fondateurs, à part Madison, mais tous les pères fondateurs pensaient que la République américaine allait s'effondrer au bout de quelques années. Voilà. Aucun pensait qu'elle allait perdurer. C'était inconcevable. Et donc là on en revient au problème, parce que. Ils étaient finalement d'accord avec Brutus, parce qu'ils disaient certes la séparation des pouvoirs, certes le fédéralisme, mais s'il y a zéro vertu, la République ne pourra pas tenir. Il faut, et c'est ce que dit Madison, il faut dans ce régime-là, malgré tout, un minimum de vertu. Et cette vertu, notamment, elle doit se retrouver chez ceux qui sont les officiers du gouvernement, les législateurs, aujourd'hui le président. Les cours, etc. Donc vous avez vraiment cette idée d'une vertu qui doit malgré tout exister, d'un certain sens civique. Et aujourd'hui, évidemment, quand on prend l'image du gouvernement américain, on peut douter que cette vertu soit présente. Et alors là, si vous voulez, il y a un peu ce côté, c'est pour ça l'erreur de Montesquieu. C'est un peu méchant, mais ça pose une question pour l'instant irrésolue. C'est-à-dire que est-ce qu'un système dit républicain peut perdurer sans une once de vertu? Et si ce n'est pas le cas, quel est le degré de vertu qu'il faut? Et comment est-ce qu'on supplée à cette vertu si elle n'existe pas? Est-ce qu'on peut la rétablir? Est-ce qu'on peut l'imposer? Est-ce que ça passe par des mandats plus courts? Est-ce que ça passe par des mandats révocatifs? Etc. Toutes ces questions sont fondamentales, et pas seulement pour les États-Unis, mais pour les différents types de gouvernement. Puisqu'il semble que pour certains individus, l'appât du gain soit tel qu'ils soient prêts à détruire. Bon, la citation de Montesquieu qu'on lisait tout à l'heure est. Je crois assez éclairante, on pourrait peut-être terminer là-dessus d'ailleurs. Oui, bon, on va terminer là-dessus si vous voulez bien. Voilà, je préfère terminer par Montesquieu. Dans une grande république, comme la République américaine aujourd'hui, il y a de grandes fortunes et par conséquent peu de modération dans les esprits. Souvent, en lisant Montesquieu, on a l'impression que c'est un journaliste ou qu'il écrit dans Le Monde. On est là, oui, c'est vrai. C'est qui ce journaliste? Alors, il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d'un citoyen. Donc, dépôts, c'est-à-dire, voilà, disons, c'est pas que monétaire, hein, c'est vraiment, il y a trop de responsabilités également à mettre aux mains d'un citoyen. Alors, ça, c'est fondamental. Les intérêts se particularisent. Donc, on a vraiment une gradation. Montesquieu nous explique ce qui se passe, en fait. On a l'impression de le voir sous nos yeux. Il décrit ce qui va se passer dans ces états-là. Les intérêts se particularisent. Un homme sent d'abord qu'il peut être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie. Et bientôt, qu'il peut être seul, grand, sur les ruines de sa patrie. Merci.